Pourrions lire un premier verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Jean, chapitre 8. La deuxième partie du verset 29. C'est le Seigneur qui parle. Moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Et comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Dans l'Épître aux Éphésiens, une expression bien connue, Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, la fin du verset 6, il nous a rendu agréable dans le bien-aimé. Une autre expression dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et le « nous », c'est le « nous » apostolique avec les autres apôtres. 2 Corinthiens, chapitre 5, la deuxième partie du verset 9. « Nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréable. » L'exemple du Seigneur dans Jean 8. Jean 8, verset 29. Je fais toujours les choses qui lui plaisent. Tout ce que disait ou tout ce que faisait le Seigneur Jésus était en parfaite harmonie avec la pensée de Dieu, avec la pensée du Père. Toutes ses pensées, tous ses actes, tout dans sa marche plaisait à Dieu. Alors dans l'Épître aux Éphésiens, il nous est dit que nous avons été rendus agréables dans le bien-aimé. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous voyons que les apôtres s'appliquaient, nous nous appliquons. Il y avait un effort à faire, à toujours être agréable à Dieu, à toujours être agréable au Seigneur. En français, les deux expressions sont similaires, hein. Nous sommes rendus agréables dans le bien-aimé, et dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréables. En réalité, les deux mots sont différents. En anglais, dans les versions anglaises, les deux mots sont traduits un peu différemment. Alors nous sommes rendus agréables dans le bien-aimé. En anglais, c'est plutôt accepté. Nous sommes tous acceptés dans le bien-aimé. Cela signifie que nous avons été rendus agréables parce que nous sommes en Christ. Et Dieu nous voit en Christ. Et c'est une position, un statut inaliénable et éternel. Et c'est une expression vraiment extraordinaire de penser que ceux qui croient au Fils de Dieu, à son œuvre, eh bien, par la foi, nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, nous sommes rendus agréables dans le bien-aimé. Et cette position, ce statut, eh bien, il n'y a aucune différence entre les croyants. Nous sommes tous, mais tous, du plus petit au plus grand, du plus jeune converti au plus âgé, nous sommes tous rendus agréables dans le bien-aimé. Il n'y a pas d'exception. Et au début de l'épître aux Éphésiens, nous voyons la richesse de toutes nos bénédictions en Christ. Et une de ces bénédictions, c'est que nous avons été rendus agréables dans le bien-aimé. Quelle expression extraordinaire. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre et les apôtres peuvent dire dans le chapitre 5 au verset 9 qu'ils s'appliquaient avec ardeur à lui être agréable. Dans l'épître aux Éphésiens, nous avons été acceptés dans le bien-aimé. Nous sommes rendus agréables. Mais dans la deuxième épître aux Corinthiens, est-ce que notre marche est acceptable pour Dieu? Si nous avons été acceptés et que nous jouissons de cette bénédiction extraordinaire, est-ce que ma vie, mon comportement est acceptable devant Dieu? Dans 1 Corinthiens 10, il y a une expression qui m'a frappé ces derniers temps à propos du peuple d'Israël. 1 Corinthiens 10 au verset 5, il est dit « Mais Dieu n'a point pris plaisir en la plupart d'entre eux. » Pourtant, c'était son peuple terrestre. Eh bien, voyons que Dieu il jette les yeux sur son peuple terrestre. Et ici, il s'agit dans 1 Corinthiens 10 de sa marche dans le désert. Et l'apôtre donne une démonstration de 5 points pour montrer justement que Dieu n'avait pas pris plaisir en la plupart d'entre eux dans le désert. Alors la question que nous pouvons nous poser tous ensemble ou individuellement, est-ce que Dieu prend plaisir en nous? Est-ce que notre marche lui est agréable? Est-ce que nous sommes acceptables dans notre manière de vivre? Est-ce que nos actions, est-ce que nos pensées, notre façon de se comporter est agréable à Dieu? La deuxième épître aux Corinthiens, c'est adressé à une assemblée. Dans 1 Corinthiens 10, il y a sans doute aussi un côté individuel, puisqu'il est parlé que Dieu n'avait pas pris plaisir dans la plupart d'entre eux. Nous jouissons de bénédictions extraordinaires comme croyant, comme enfant de Dieu, connaissant Dieu comme notre Père, mais est-ce que notre marche correspond au fond à notre position, à notre statut? Et c'est la grande question. Alors, on pourrait lire un verset dans les psaumes, un verset dans, je crois que c'est le psaume 143. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans un pays uni. C'est une prière qui est adressée à Dieu par David. Et on a dit que dans le psaume 143, on voit plutôt le caractère d'un serviteur qui s'adresse à l'Éternel, qui s'adresse à son Dieu, et il y exprime cette prière « Enseigne-moi à faire ce qui te plaît ». Est-ce qu'il nous est arrivé de faire une telle prière à notre Dieu individuellement? On fait souvent des demandes d'être gardé, d'être béni. Est-ce que, dans le particulier, ça nous est arrivé d'exprimer une telle prière? Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, ce qui te plaît. Non pas ce qui me fait plaisir, hein, c'est pas ce qui te plaît. Est-ce que c'est le désir de nos âmes de faire ce qui plaît à Dieu? Est-ce que c'est le désir de nos âmes de lui être agréable? Ou bien avons-nous un esprit indompté? On peut être un chrétien et avoir un esprit indompté, c'est-à-dire au fond, on est heureux de jouir du fait d'être un enfant de Dieu, quelque chose de précieux, mais on peut avoir aussi s'arrêter là et puis avoir un esprit indompté dans la vie, c'est-à-dire je fais ce que je veux. Et puis quelquefois, un frère va me faire une remarque, ou une sœur même, et puis ça ne va pas me plaire. Pourquoi? Parce que j'ai un esprit indompté, je veux faire ce que je veux. Et la chair qui peut être religieuse, hein, notre chair, elle peut revêtir un manteau extraordinaire, notre chair religieuse. Et est-ce que nous avons à cœur de faire ce qu'il plaît à Dieu, ce qui te plaît? Est-ce que nous avons un esprit soumis à Dieu ou est-ce que nous avons un esprit indompté? La fin des juges, nous avons évoqué, on peut lire peut-être... On n'a pas lu en commençant Ruth, mais on peut lire ce qu'il y en était. Dernier verset du livre des Juges, chapitre 21, verset 25. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Alors, il y a deux choses. Il n'y avait pas de roi, c'est-à-dire qu'il y avait un refus de toute autorité. Et actuellement, dans le monde, toutes les autorités sont remises en question. Et le deuxième point, c'était chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. C'est-à-dire, c'est le règne de la volonté propre. Hein, je fais ce que je veux. Et personne ne va m'empêcher de faire ce que je veux. Hein, les enfants, les adolescents, dans nos familles, hein, en tant que parents ou grands-parents, nous l'entendons quelquefois. Et c'est ça, un esprit indompté. C'est pas un esprit soumis. Dieu veut un esprit soumis. Il veut que nous fassions sa volonté. Il veut que nous fassions ce qui lui plaît. Il veut que nous fassions ce qui lui est agréable, individuellement, mais aussi collectivement. Dans l'Épître aux Hébreux, je pense à Hénoc. Hébreux 11, au verset 5, il nous est dit « Par la foi, Hénoc fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. » Voilà. Un homme qui a marché avec Dieu, on va peut-être regarder dans la Genèse, et il a reçu ce témoignage de la part de Dieu, certainement, d'avoir plu à Dieu. C'est une pensée qui nous remue dans le cœur et dans la conscience. Est-ce que je plais à Dieu dans ce que je fais, dans ce que je pense? Les pensées sont cachées à mes frères et à mes sœurs, à mon épouse, à mes enfants. Mais est-ce que dans mes pensées, est-ce que j'ai des pensées qui sont pures, qui sont occupés de choses bonnes, de choses saines? Est-ce que mes pensées aussi plaisent à Dieu? Ou j'ai des hautes pensées de moi-même? Si j'ai une haute pensée de moi-même, ça ne plaît pas à Dieu, c'est de l'orgueil, c'est de la prétention. Alors Hénoc, on peut lire peut-être dans Genèse, c'est au chapitre 5. Verset 18, « Jéred vécut 162 ans et engendra Hénoc. » Et verset 21, « Et Hénoc vécut 65 ans. » Et engendra Methuselah, et Hénoc, après qu'il eut engendré Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles, et tous les jours de Hénoc furent 365 ans, et Hénoc marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. La Genèse, c'est le livre des premiers. Des premières choses. Et donc, Hénoc, c'est le premier prophète. Dans l'Épître à Jude, verset 14, nous lisons donc ce qu'a professé Hénoc. Et donc, Hénoc, le premier prophète, comme son nom l'indique dans la petite note, il a été enseigné et instruit. Et le grand secret de sa marche par la foi, c'était que Dieu l'instruisait et que Dieu l'enseignait. Alors Dieu nous enseigne par sa parole. Mais est-ce que, quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes véritablement enseignés et instruits? Est-ce qu'il s'agit simplement de satisfaire notre intellect? Ou bien est-ce que la parole de Dieu, je la reçois, elle touche mon cœur, elle touche ma conscience, et ainsi il y a des fruits pour Dieu? Et donc, du temps d'Enoch, bien, l'Éternel, directement, il n'y avait pas bien sûr la parole de Dieu à ce moment-là, eh bien, il était enseigné et instruit par Dieu. Et marcher avec Dieu signifie qu'il avait une relation étroite avec Dieu, une relation intime. Et c'est-à-dire que les liens entre Enoch et Dieu étaient des liens resserrés. Pour plaire à Dieu, eh bien, il faut avoir une relation étroite avec Dieu. Il faut avoir des liens resserrés avec lui. Et si nous relisons, chacun pourra lire dans 1 Corinthiens 10, les 5 raisons pour lesquelles le peuple d'Israël dans le désert s'est éloigné de Dieu, il y a 5 raisons, et on voit qu'à la fin, à la dernière des raisons, on voit qu'il y avait une rupture pratiquement complète entre son peuple terrestre et avec Dieu lui-même. Une dégradation progressive entre l'Éternel et son peuple, à cause de la convoitise, ce qu'a entraîné la convoitise, l'idolâtrie. Si on relit les versets, nous voyons une décadence progressive. Et à la fin du cinquième point, on voit que la relation avec l'Éternel, elle est pratiquement inexistante. Enoch a marché avec Dieu et il ne fut plus, c'est-à-dire qu'il a été enlevé, sa récompense a été une récompense extraordinaire, il n'est pas passé par la mort. Bien sûr, c'est un type de l'Église qui sera enlevé. Mais il faut souligner que pour plaire à Dieu, il faut vivre une vie près de lui avec des liens étroits avec notre Dieu. Par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, et toujours dans notre vie quotidienne, avoir la pensée que nous sommes liés à Dieu. Si nous satisfaisons nos convoitises, s'il y a cette décadence progressive, nous allons perdre le sentiment même de la présence de Dieu à nos côtés et nous éloigner. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît. Je crois que dans la première épître aux Thessaloniciens, nous trouvons une expression ou à deux reprises au moins cette même expression, 1 Thessaloniciens. C'était des jeunes croyants. 1 Thessaloniciens chapitre 2, la fin du verset 4, au verset 4, nous avons été approuvés de Dieu pour que l'évangile nous fût confié. Nous parlons ainsi, non comme plaisant aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Et voilà l'encouragement que l'apôtre Paul fait aux Thessaloniciens qui étaient des jeunes dans la foi. C'est-à-dire, il leur disait, l'apôtre Paul se donnait un exemple. Il avait agi non comme plaisant aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Et comment plaire à Dieu qui éprouve les cœurs? Nous l'avons au verset 10, toujours du chapitre 2. L'apôtre dit, vous êtes témoins, et Dieu aussi, combien nous nous sommes conduits saintement et justement et irréprochablement envers vous, qui croyez. Encore au verset, au chapitre 4, nous trouvons cette expression. Au reste donc, frères, verset 1er, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus pour que, comme vous avez reçu de nous, de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez, vous y abondiez de plus en plus. L'apôtre devait certainement avoir eu le témoignage de Jean, hein. Ce que avait pu dire le Seigneur Jésus, qu'il faisait toujours les choses qui plaisaient à Dieu. Et nous voyons que l'apôtre, ou les apôtres, avaient à cœur non pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Et il exhortait les Thessaloniciens à marcher, à plaire à Dieu, et y abonder de plus en plus. C'est-à-dire une croissance continuelle, un accroissement. Est-ce que notre conduite est une conduite sainte, saintement, une conduite juste, irréprochable? Et est-ce que, dans notre vie quotidienne, nous avons toujours à cœur de plaire à Dieu? Ce n'est pas plaire une heure ou deux dans la journée. Ce n'est pas plaire à Dieu une fois par semaine pour les réunions, bien sûr. Et cela a été souvent souligné. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie journalière, une heure ou deux, ou une vie hebdomadaire le dimanche. Mais quand l'apôtre exhorte à marcher et à plaire à Dieu, comme aussi vous marchez pour y abonder, c'est tous les jours. Est-ce que nous avons à cœur de plaire à Dieu? On peut lire encore un dernier verset. Sans doute, vous y avez pensé dans les Colossiens. Premier chapitre. Verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Pour porter du fruit, il faut connaître la volonté de Dieu, il faut l'accomplir pour avoir une marche digne du Seigneur et pour lui plaire à tous égards. À tous égards. À tous égards, ça veut dire entièrement, dans tous les instants, en parole, en pensée, en acte. Est-ce que nous avons à cœur de plaire au Seigneur à tous égards? Non pas accomplir quelques devoirs de temps en temps, mais avoir une vie où notre cœur est engagé après lui. Est-ce que nous avons à cœur de rechercher sa volonté pour lui plaire à tous égards? Enseigne-moi à faire ce qui te plaît.
Juste un verset dans le prophète Michée, chapitre 6, au verset 8. Michée, chapitre 6, et verset 8. Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu?
Seigneur Jésus, leur a marché dans la pensée de son Dieu, de son Père. Et nous sommes ces rachetés et nous avons à imiter le Seigneur dans sa marche. Heureusement pour mon bien nous humilier souvent de ne pas toujours le faire. Mais voilà, le prophète Michée, ce que l'Éternel dira à son peuple Israël qui s'est égaré. Voilà, qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part? Que tu aimes la bonté, tu fasses ce qui est droit, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et nous aussi, nous avons ainsi à marcher avec notre Seigneur dans le chemin qu'il nous a tracé pour la gloire de son Dieu, pour la gloire du Seigneur Jésus. En attendant, nous l'avons chanté, que le monde connaisse comment que nous sommes du Seigneur Jésus et que nous puissions ainsi honorer le Seigneur dans notre vie, que le monde puisse voir aussi comment nous marchons et ainsi glorifier notre Dieu, notre Père et glorifier le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part? Que tu aimes la bonté, que tu fasses ce qui est droit et que tu marches humblement avec ton Dieu.